Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, Terry Coughlin, je suis l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par la rugby. En fait, j'étais ancien joueur de foot américain avant de me convertir à un sport plus ancien, le rugby orthodoxe. L'idée de notre podcast est très simple, on part de rugby entre amis au comptoir de notre clubhouse audio. Aujourd'hui, on va copier un peu les maillots de notre 15 de France. On remercie les gars de partager vos premiers clubs. Donc là, je suis très content d'être là avec Charlie Bayer, deuxième ligne à Massif Central.
Absolument. Écoute, moi, mon premier club, c'était avec toi, mon petit ticket, puisque j'ai commencé en folklore pour savoir si le rugby me plaisait assez pour m'y intéresser, pour me prendre une licence. Et ça m'a plu assez pour prendre une licence. Mais j'ai commencé à l'Océan Rugby Club avec une très belle bande avec laquelle on a fait de très beaux voyages. On a des très beaux souvenirs.
Exactement. Et pour notre deuxième ligne, c'est Théodore de Saint-Rémy.
Ouais, je découvre cette notion de rugby orthodoxe qui n'est pas pour me déplaire. J'avoue que je trouve ça assez juste. Moi, mon premier club, bien, c'est l'ACBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Le stade qui s'est fait piquer son stade par le Stade Français. Voilà. Puisque le Saut du Loup, là où j'ai fait mes premiers pas en club, en fédéral, avant j'avais joué en scolaire. C'est tout simplement devenu le centre d'entraînement du Stade Français. Et pour ça que les deux clubs ont un petit passif.
Et voilà. Et pour toi, Alban Borel, qui joue aujourd'hui avec les Pink Rockets de Stade Français.
Eh bien oui, Alban joue au Pink Rockets du Stade Français quand le Covid ne nous empêche pas de nous entraîner et de faire nos matchs. Et moi, mon premier club, alors officiellement club, on va dire, affilié à la Fédé, c'était le RCP 15, que j'ai découvert
club
en
historique.
2000. Tout à fait, club historique que j'ai découvert en 2015, je crois, 2016. Et puis, sinon, j'avais commencé avant mes armes en école de commerce à l'ESSEC, voilà.
Eh bien, parfait. Et Alban, on a un peu de bonnes nouvelles aussi.
Et oui, pour commencer cet épisode, on voulait vous partager un super commentaire qu'on a reçu sur Apple Podcast par un certain Dylan Deberge qui nous a laissé un super mot qu'on voulait vous partager qui nous dit qu'il a découvert le pack de potes il y a quasiment un an et quel régal. Le contenu est riche et vraiment convivial. Un bonheur de le retrouver chaque semaine. Eh bien, cher Dylan, nous avons le plaisir de nous aussi te retrouver chaque semaine et on espère que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre et continuer du coup de partager votre bonne humeur, de nous partager votre bonne humeur, mais aussi de la partager à votre entourage.
Merci Dylan.
Dylan, on te kiffe.
Déjà, je trouve que c'est un bon nom de groupe de musique, de Dylan Deberge Band, c'est pas mal. Et ouais, en fait, j'ai pensé qu'il connaît le pack de potes depuis un an, et donc en fait, il connaît le pack de potes avec Miss Alban Borel, parce que ça fait environ un an que t'es avec nous, Alban. Allez, happy birthday for Alban!
Bien sûr. Happy birthday! Yes, merci. Mais j'ai même envie de dire que c'est grâce à moi qu'il est là aujourd'hui.
Certainement, sans aucun doute.
Et voilà le melon, c'est incroyable, hein. Tout de suite, c'est fou. Hein. Bon. Bah, une seconde de répit, de modestie.
Pour finir ce moment un peu à Alban, tu es le seul entre nous qui travaille dans le monde de sport aujourd'hui et là tu travailles sur un super projet en ce moment.
Et oui, effectivement, donc pour continuer dans l'auto-promo et surtout dans la célébration des amateurs et de nos supporters qui permettent au rugby d'exister, à tous ces amoureux du rugby, je voulais vous parler de la campagne actuellement de Société Générale, qui est donc partenaire du rugby depuis plus de 30 ans, qui a lancé à l'occasion du tournoi Destination une campagne qui fait honneur à tous les amoureux du rugby, donc les supporters, les animateurs de séances de rugby du dimanche matin, ceux qui célèbrent la troisième mi-temps, mais aussi tous les coachs, les dirigeants de clubs amateurs, professionnels aussi, qui œuvrent pour que le rugby continue d'exister, au-delà des joueurs, bien sûr. Et voilà, donc c'est une campagne qui fait honneur à tous ces gens. Donc, si vous voulez vous aussi célébrer et mettre à l'honneur une personne qui était importante pour vous dans votre parcours rugbystique, c'est le moment d'y aller.
C'est bon aussi pour les éducs comme nous, Charlie.
Exactement,
c'est ça,
les éducateurs.
Oui.
Et du coup, vous pouvez aller suivre les comptes Par Amour du Rugby sur Facebook, Twitter et Instagram pour regarder tout ça. Il y a des super contenus avec Charles Olivon, Ntamak, Gaël Hermé qui font des haies d'honneur assez émouvantes à leurs proches. Donc voilà, c'est le moment de lâcher une petite larme. C'est très beau, exactement.
Bon, on a fait la minute Alban, mais pourquoi pas les minutes américains quand même. Moi, j'aime bien mettre un petit touche de Major League Rugby. Et en fait, ils ont encore embauché un autre Australien pour les LA Giltinis. Et cette fois-ci, c'est Mr. Matt Gito. Je ne sais pas le montant de son contrat, mais je sais que la dernière fois, quand il jouait en Japon, c'était pour 1 million d'euros. Mais je pense que ça va être un peu moins cette fois-ci. Et toujours dans le monde de MLR, il y a un certain Greb sur Twitter qui nous a attiré l'attention sur quelque chose qui pire que les moulets. En fait, c'est le mec avec les couettes. Donc, je vous invite. Il y a un joueur de la MLR avec deux grosses couettes et franchement, c'est affreux. Déjà, mulette avec couette, ça c'est assez horrible aussi.
Ah non, mulette plus couette, non.
Mulquette.
Non, ça va trop loin.
Mais cette semaine, tu n'as pas aussi participé à un petit quiz qu'on a relayé dans le pack de potes avec notre ami, on peut l'appeler notre ami, Serge Betsen.
Oui, c'était super sympa. Donc, j'ai fait ça avec ma femme. C'était ambiance pop quiz avec Serge Betsen et d'autres grands joueurs dans nos six nations. Paul Wallace d'Irlande, Mike Phillips de Pays de Galles, Mike Tindall de l'Angleterre. Et franchement, c'était vraiment sympa. Il y avait environ 100 de personnes et ils ont gagné plus de 4000 euros pour le Serge Betsen Academy. J'ai passé un très, très, très bon moment.
T'as passé un très très bon moment en bonne compagnie, mais t'as pas été à la hauteur du talent des légendes qui t'entouraient, non? Parce que t'as pas fait un score super super légendaire, non?
J'étais dans les top 50%, je pense que j'avais été 42e. Il faut savoir que des Anglais, quand même, ils sont super forts à ça. Et la seule fois que j'ai gagné un pub quiz, j'étais entouré par au moins 4 personnes avec un doctorat. Donc,
serait-ce une question de formation?
Et l'habitude aussi. Et je pense que franchement, s'il refait ça l'année prochaine, c'est vraiment super sympa. C'était vraiment un très très bon moment. Allez, dans d'autres nouvelles, on a aussi Sonny Boy Williams qui a fait sa retraite. Donc moi, personnellement, je ne connais pas très bien ce monsieur, mais apparemment, c'est un grand centre pour les All Blacks. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter à son égard.
Peut-être que son nom, c'est Sonny Bill Williams.
En fait, c'est assez drôle, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de restaurant où j'habitais, je pense que ça s'appelle Sonny Boys, donc c'est pour ça que j'ai fait là.
Bah, Sonny Bill, c'est vraiment un très très grand joueur de la décennie écoulée chez les All Blacks, qui a joué au centre et à l'aile principalement, qui avait des qualités athlétiques tout à fait hors du commun, et qui a aussi été un peu boxeur. Donc c'est notre moscato à nous, quoi, on va dire. Enfin, c'est leur moscato à eux, mais un cran au-dessus, Vincent, si tu nous écoutes.
Ouais, même physique d'ange, la même petite gueule d'ange de beau gosse. Ouais. C'est comme moscato.
Mais d'ailleurs, il quitte le rugby pour revenir à son premier amour qui était la boxe.
Écoutez, le team, avant de passer au match de ce week-end, je voulais juste dire bravo pour la semaine dernière. Je pense qu'on avait un moment Covid où il fallait parler de ça. Et je trouve que Alban et Théo, vous avez fait ça vraiment avec du classe la semaine dernière. Et c'est vrai que ce n'était pas un moment évident. Il me semble maintenant très loin en arrière. Ça fait 2 semaines, mais il me semble très, très loin. Mais bravo, je trouve que vous avez bien géré la situation.
Mais on a toujours la classe,
chouchou du président, j'y crois pas.
Et ouais, c'est ça.
Ils ont
qu'on
les
a
félicitations
quand on
et tout.
Hein. Allez, on y va avec des matchs.
Crunch time.
Pack de potes, terrain 10.
Allez, on va démarrer tout de suite avec Italie Pays de Galles. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. 3 minutes, 3 points, carton jaune pour le talonneur avec un bon nom de rappeur, Luca Biggie. À 9 minutes, on est à 10-0. Super passe simple de Bigard vers Adams. À 15 minutes, on est à 15-0. Et c'est de la numéro 8 gallois. Et en gros, à 14 contre 15 contre les Gallois, c'est juste pas possible. Ce match est presque plié déjà. 22 minutes, c'est 22-0. Et on se demande si ça va finir à 80-0. À 29 minutes, 27-0. Deuxième essai de numéro 2 gallois. À 34 minutes, finalement, les Italiens toc-toc-toc se la portent. Mais les Gallois le ferment au nez. Et pointe un essai par le 15. Candy Bar star Louis Rice Zamet qui est refusé, mais vous inquiétez pas, il marque un joli essai plus tard avec un contre. Un autre essai de 43 minutes de George Stark of the North. Il a que 28 ans, ce mec, c'est assez impressionnant. Et là, franchement, j'ai arrêté de prendre des notes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à apprendre. Voilà, big ups à Bigard parce qu'il avait un super match et je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à celle-là.
Non, t'as tout dit. Un peu tristounet, toujours, ouais. Mais voilà.
Moi, je dirais juste qu'il m'énerve un peu les Gallois parce que d'une, enfin leur parcours et du coup leur place à la fin de cette journée dans le classement du tournoi et le fait qu'ils puissent faire le grand chelem m'agace parce que d'une, ça me donne tort par rapport à ce que je disais au début du tournoi
Oui, t'étais pas seul, hein. on disait tous qu'ils étaient fatigués.
Hein. Ouais, on s'est tous un peu trompés là-dessus.
Évidemment, c'est extrêmement énervant d'avoir tort, donc je ne veux pas la mettre. Et puis, bon, c'est vrai qu'ils se sont réveillés contre l'Angleterre, d'ailleurs, ils nous les ont un peu énervés, on y reviendra plus tard. Ouais. Mais leurs deux premiers matchs, bah, d'ailleurs, à chaque fois qu'on les débriefait, on se disait un peu la même chose. Ils ont eu chaud aux fesses, surtout leur tout premier. Et ouais, bon, c'est un peu c'est le jeu du sport, hein, mais
l'histoire n'est pas terminée, pas Charlie. Il y a une muraille bleue qui se présente là quand même.
Ce serait beau que des justiciers tout de bleu vêtus viennent réparer cette injustice lors d'une dernière journée, peut-être, je ne sais pas, en faisant tomber ces Gallois qui ne méritent pas leur place quand même,
avec eux depuis quelques années.
Oui. C'est vrai.
Ce serait le moment d'intervenir, je pense.
Oui, on va parler de ça après. Bah, il faut parler d'abord de ce France-Angleterre. On y va pour ce match France-Angleterre, ce fameux crunch. Ça fait 16 ans depuis la dernière victoire de la France à Twickenham. Et bonne nouvelle, on a Brace, qui était le même arbitre qu'on a perdu le final dans l'Autumn Nations Cup. Ouais. Par contre, ça prend une minute pour marquer le premier essai. Coup de pied à suivre par Teddy Thomas. Antoine Dupont, le ministre de l'Intérieur, est au conseil. Il marque son essai, transformé par Jalibert. Wouhou, 7-0. Par contre, les Anglais n'aiment pas trop beaucoup ça. Et ils commencent à nous attaquer dans l'air et sur le sol. Grosse défense du pack, mais on n'a jamais le ballon en main. Slade fait un gros percé et c'est Watson qui marque, 7-7. On est sous la pression, pénalité pour les Anglais. Owen Farrell fait le nécessaire, 10-7. Grosse percée de Marchand et on commence à croire. Mais c'est Watson qui est encore dangereux. Jalibert sauve un essai et on sort plutôt bien avec juste un pénalité, 13-7 pour les Roast Beef. Dupont se fait contrer par Curry qui est vraiment en canne, mais il sauve la baraque. Les deux équipes sont vraiment, vraiment en forme. Joli plaquage par Bay sur Youngs qui a sous-estimé la vitesse de pilier. On gagne à mêlée et les Anglais commencent à douter pour une fois. La France joue un attaque très très vite. Chip kick par Dupont pour Jalibert qui appuie sur son genou, dommage. Mais par contre, pénalité pour nous, 13-10. Un peu sous la pression anglaise, nos deuxièmes lignes provoquent en pénalité des Anglais. Et voilà, la touche parfaite. Un peu de French flair dans le English air. Passe sautée par Jalibert pour Damien Penaud. Jalibert assure la transformation, 17-13 pour nous. Les dernières 5 minutes avant la mi-temps, on voit plein de super rugby des deux côtés. Jalibert avec un joli course, Teddy Thomas et Crétin aussi. On presse les Anglais, mais le score ne va pas changer. Mi-temps, 17-13 pour les Français.
Ça a commencé très très fort, en effet, comme tu l'as dit. Fallait pas arriver en retard, ça fait partie de ces matchs-là. Mais après ces 5 minutes bien maîtrisées par les Français, et il y a eu beaucoup beaucoup de rythme. Enfin, c'était vraiment une première mi-temps de niveau incroyable. Je dirais entre la fin, il y a eu 20 bonnes minutes où clairement il y avait une domination anglaise pour moi, où ils nous ont un peu concassé la gueule. Où ils y allaient fort et tout, et ce premier coup d'éclat de début, quoi, on s'est dit est-ce que c'est pas juste les trois semaines sans match qui éclataient d'un coup et il n'y aurait plus rien derrière et on va devoir suivre les Anglais. Et heureusement, à la demi-heure de jeu, il y a eu cet essai. D'ailleurs, on avait noté que depuis l'ère Galtier, enfin depuis l'ère Karim Ghezal, souvent il faisait ses petites touches au-delà des 15, au-delà du troisième bloc pour le centre Ficou qui arrivait. C'est la troisième fois, il me semble, qu'on le voit depuis le début de l'année. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment maîtrisé de A à Z. Ils nous ont rappelé que pendant que les Anglais pouvaient concasser pendant 20 minutes, les Français savaient aussi sortir des actions, des combinaisons maîtrisées de A à Z. Et c'était vraiment, vraiment enthousiasmant.
Ces touches-là, elles sont super intéressantes parce qu'elles permettent à l'attaquant, au premier attaquant, d'arriver dans la ligne plein fer. Et donc d'avoir quand même un coup d'avance. Donc elles exigent une grosse précision du lanceur. Hein. C'est pas tout le monde qui est capable de balancer au-delà des 15 mètres avec précision et un super timing. Mais c'est vrai que ça, quand ça fonctionne, ça met tout de suite le feu dans la défense d'en face.
Galtier a dit à la fin du match que cette touche s'appelait la Toulouse. Voilà, pour l'anecdote.
Je pense qu'on a tous un Toulouse, non, sur chaque équipe. Allez, Toulouse, Toulouse.
C'est clair.
C'est celle du beau jeu et des trois quarts. Mais non, c'est vrai que c'est une touche parfaitement maîtrisé avec une combinaison derrière, de la justesse technique partout, les courses, que ce soit dans les courses, dans les passes, la Virmi Vakatawa est hyper important d'ailleurs, c'est le joueur, je crois qu'il touche pas la balle sur cette action-là, et il vient fixer, je pense, deux ou trois défenseurs qui permettent de d'écarter ensuite, mais c'est vraiment un cas d'école magnifique à montrer tous les dimanches matin, cher, ouais, cher
moi,
Charlie.
Et toi aussi. Moi, en tout cas, j'ai aussi, adoré cette quoi. Mi-temps parce que on s'est pas ennuyé du tout. C'était oui. vraiment le contraire du match Pays de Galles-Italie avec un vrai mano à mano. Ça finit d'ailleurs 17-13 à la mi-temps. Des essais des deux côtés. Le premier essai des Français, il est magnifique. Ça va à droite, à gauche. Tout le monde touche le ballon. Ficou, Vakatawa, Olivon, Dupont, Thomas. Enfin, c'est énorme, vraiment énorme. Cette touche sur mêlée, on en a parlé. Et puis l'essai des Anglais avec les jambes de Colin Slade, la passe au cordeau de Ford pour Watson qui va marquer. Il est aussi absolument magnifique. Donc, j'ai adoré cette première mi-temps. Le seul truc que j'ai beaucoup regretté, enfin il y en avait deux qui coûtent cher à la fin, c'est effectivement ce manque de chance de Jalibert qui a pu le ballon sur son genou. Ça c'est pareil, hein, c'est vraiment un coup du sort qu'il n'arrive pas à l'appuyer. Et puis la dernière action de la première mi-temps où les Français ont vraiment fait mal aux Anglais alors qu'ils avaient été en difficulté dans le dernier quart d'heure, où ils remontent et l'arbitre siffle une pénalité pour Tom Curry au grattage qui est hyper généreuse parce que Tom Curry est vraiment plaqueur ou assistant plaqueur sur l'action et il ne doit pas gratter aussi vite. Et s'il n'y a pas pénalité, il y a probablement essai pour les Français.
Donc,
moi, je regrette vraiment cette action-là qui, je trouve, aurait couronné complètement cette première mi-temps pour les Français. Bon, ça a tourné pour les Anglais. Et on parlera peut-être en deuxième mi-temps d'autres décisions. Celle-là me semble très litigieuse et injuste. Quand en deuxième mi-temps, ça me semble plutôt légitime les décisions qu'a pris l'arbitre.
Juste pour finir sur cette première mi-temps, j'étais vachement optimiste pour la suite parce que franchement, je ne sais pas si vous avez noté ça aussi, mais les Anglais ils finissent capot ouvert à la fin. Comme tu dis, il y a à la fin les Français qui remettent une couche. Mais je pense que ces 20 minutes de domination physique des Anglais, ça leur a coûté très cher. Et vraiment, à la fin, ils sont capot ouvert, quoi. Je pensais vraiment que la deuxième mi-temps, ça allait plus dérouler. Et juste pour mon petit chouchou qui Itogé qui a fait encore une fois un match de dingue. Voilà, je sais pas
si t'as pas le droit d'en parler aujourd'hui.
Si souvent,
t'as pas le droit d'en parler.
Je vais être obligé, surtout en deuxième mi-temps, d'en parler. Mais je sais pas si souvent on verra un mec secouer Awas comme on l'a vu se faire secouer.
Voilà. Quel athlète.
N'est-ce pas.
C'est énorme. Il est énorme. Franchement, il fait un match là. Autant il y a 15 jours, la semaine dernière, il avait été vraiment à la rupture en faisant beaucoup trop de fautes.
Ouais.
Donc là, je pense qu'il a beaucoup travaillé sur comment canaliser son enthousiasme et arriver à être à la rupture sans faire la faute de trop. Et il fait peu de fautes sur ce match et il n'a pas arrêté de contrer, d'être présent.
Il a été énorme.
C'est un match 10 sur 10.
C'est vrai qu'il est proche de la perfection, mais Dieu, dans sa volonté d'équilibre, l'a quand même fait anglais. Donc il a une tare dure à rattraper que toutes les qualités du monde.
Bon allez, deuxième mi-temps Thierry, parce que là il y a des conneries.
Pardon.
Merci. On est tout de suite sous pression, mais Vakatawa nous pique le ballon, c'est bien. Doulin avec un joli up and under, les Français sont un peu libres là, mais passe en avant par Olivon, dommage. Jolie course par Youngs, mais c'est le numéro 4, Taofifenua.
Mais
c'est trop dur pour les Américains.
Ouais, voilà, c'est incroyable. Allez, jolie course de Youngs, mais c'est notre numéro 4, Taofofinoua, qui remplace.
Ouais, on n'est pas loin.
C'était pas mal.
Avec classe, Mr. Leroux. Il nous prend le ballon pour nous, c'est bien. On attaque vite. Pénalité pour nous, Jalibert assure. Donc c'est 20-13 pour nous, à 50 minutes. Mais les Anglais vont ajouter un pénalité 4 minutes plus tard, 20-16. 58 minutes, on voit quelques erreurs. Il y a des remplacements qui arrivent, des remplaçants anglais arrivent. Un peu plus tard, notamment Genghis Khan, là, le blanc. On chope le ballon, super coup de pied de Ficou. Pono mit les Anglais en sous-pression. Brice Dulin tente un drop ambitieux, on va dire. Mais pourquoi pas. Les Anglais sont en bonne position de marquer. Ils sont sur notre 22 avec 10 minutes qui nous restent. Mais c'est Pono qui fait un joli contre-rock. On respire et on dit bonjour au Kamicha, devenu poil court. Les Anglais reviennent à la charge de nos 22 encore. Touche et hop, le fameux Itogé marque un essai un peu douteux. Dans tous les cas, j'aime plus ce monsieur. Les Anglais, ils m'énervent. Et voilà, ils gagnent 23-20.
Ouais, Tu parlais de Romain Taofifénoua, je pense que. Alors, Romain Taofifénoua, mais je pense que sans l'élire homme du match, il a quand même fait une énorme partie. Et je pense qu'il a, enfin, que ce soit pour faire avancer les lignes d'attaque, mais aussi en défense, il était vraiment monstrueux. Je pense qu'il a bien gagné sa place et bien mérité son rôle de titulaire à la place de Bernard Leroux. Et honnêtement, ça a été. Une révélation un petit peu, c'est toujours un joueur qui reste assez discret dans l'ombre, on va dire, de ses compères deuxième ligne, mais je trouve qu'il a fait un match très abouti,
Tu
très
vois, toi aussi,
réussi.
tu kiffes les deuxièmes lignes, Alban.
Et je dois,
Ah oui, bah
tu
voilà,
viens
tu
de
y
me
viens
couper ma
gentiment,
punchline.
doucement, gentiment, mais tu y viens.
Voici une ode à une deuxième ligne.
On en manquait dans l'émission, c'est bien.
Exactement.
Non, moi je dirais que cette deuxième mi-temps, elle est quand même globalement à l'avantage des Anglais. Je pense que la séquence décortiquée de l'essai d'Itogé sur le coup, on a l'impression la main en dessous, le machin, etc. Au final, il y a des photos qui sont sorties après, il y a bien essai, parce que
Il y a
quand il
bien
tombe, il n'y
essayé,
a
c'est
pas de
sûr.
doute, il aplatit la pointe. Je trouve qu'on le voit un tout petit peu, même si on aurait aimé que l'arbitre restât sur sa décision de terrain. Mais je pense que l'arbitre vidéo, qui était une femme, Joyce quelque chose, a pris
Joy.
Joy quelque chose, a pris la bonne décision, même si c'est très frustrant. Maintenant, quand on regarde cette action-là, on sort quand même d'un quart d'heure de forte domination des Anglais. On sait très bien que les Anglais, en fin de match, qui courent après le score ou qui soient devant, quand ils mettent la marche en avant comme ça, qu'ils enchaînent les temps de jeu et qu'on est sur le reculoir, en général, ça finit derrière la ligne quand même. Et on les a laissés faire ça. Je pense que c'est notre faute, notre responsabilité. Et sur cette action-là, Cameron Wauki et Teddy Thomas défendent très mal. Teddy Thomas beaucoup trop sur le côté du regroupement vers l'intérieur et Cameron Wauki beaucoup trop à l'extérieur. Il y a un espace qui est très large. Itogé, il y va beaucoup trop facilement dans cet espace-là. Et quand on voit maintenant ses défenses sur ses pick and go près des lignes, tu as trois mecs collés à 1 cm les uns des autres sur les espaces près du môle à chaque fois. Et là, il y a 1 mètre de vide. Donc, essaie. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire là-dessus, à mon sens. Et je dirais, Cameron nous a tués là, sur ce coup-là.
Ouais, moi, sur cet essai, ce qui m'a un peu saoulé, c'est vrai que sur les réseaux, sur les machins, tout le monde parle de l'arbitrage. Il y a un moment quand le mec il passe et que ta défense elle est sur le recouloir et qu'il aplatit, si tu as une phalange d'un auriculaire qui est sous le ballon, on s'en fout un peu. Enfin, voilà quoi, ils ont dominé comme
Sportivement,
tu
c'est
dis.
très bien que cet essai ait été accordé, honnêtement.
Voilà,
C'est dur
complètement.
pour
Il y
nous,
a essai, il
mais.
y a essai, tu peux pas. Enfin, ça devient, je trouve que c'est super rabaissant d'en être à parler de combien il y a eu de morceaux de doigts sous un ballon. Enfin, voilà quoi, tu t'es
Exactement.
pris ton essai, calme-toi. Ah, non.
Non, et je trouve, sur cette mi-temps, juste pour finir, Charlie, après je vous laisserai, mais il me semble que sur la mi-temps, le banc anglais qui rentre en
Ouais,
deuxième
c'est ce que je
mi-temps fait vraiment une grosse rentrée,
Oui,
et les
et le
Français
nôtre.
donnent pas tellement le change en rentrant. Camille Chat, il fait une rentrée assez discrète. Cameron Wauki, c'est pareil. Et je comprends pas pourquoi on met Ntamack sur la feuille de match si c'est pour pas le faire rentrer dans le dernier quart d'heure. Ça sert à quoi? Ça, c'est un truc de coaching que je
Bah
ne comprends pas.
surtout, ouais,
C'est un peu
moi aussi,
inexplicable.
c'est.
Soit il a pas la maille pour jouer parce qu'il a mal, je sais pas où, il a une appréhension, ce qu'on peut comprendre, et on l'accable pas. Parce qu'il est pas sur le banc. Et ça sert à rien de pas le faire rentrer. J'ai rien lu là-dessus, mais c'est un truc que je comprends pas du tout comme choix.
Si, oh, y a eu pas mal de débats quand même autour du coaching, bah, notamment de Ntamack, mais je dirais que c'est pas lui qui a eu le plus d'interrogations parce que Jalibert fait un
Tout
super
à fait.
match et je pense que l'équilibre du match était là, de la charnière. À la limite, on pouvait avoir des interrogations sur Dupont qui est un peu en deçà
Ouais, la dernière
de
demi-heure,
sa
il y est pas
performance
trop. Ouais.
habituelle. Voilà. Et là, on peut se poser des questions plutôt que de faire rentrer Serein à sa place, mais. Il y a toujours une question d'équilibre en fait dans ça, c'est-à-dire que Dupont en plus on sait qu'il est capable de rattraper une connerie la seconde après l'avoir faite, donc ce joueur est tellement exceptionnel qu'on peut aussi avoir le bénéfice du doute d'une surperformance après une mauvaise performance. Après voilà, on le voit à l'image de son en avant sur la dernière
Ouais,
action
il
qui est
est triste,
malheureusement
celui-là, un peu.
ouais, il est très triste
Il a du
sur
mal avec les dernières minutes des crunchs.
C'est ça. Mais c'est sûr que le coaching là-dessus, pour moi, c'est le coaching qui, enfin, les personnes qui sont rentrées pour le coup n'ont pas eu l'impact suffisant pour changer aussi le cours du match entre guillemets tel
A
qu'il était
contrario,
à ce
j'ai dit
moment-là,
que
quoi.
Teddy Thomas avait été un tout petit peu impliqué sur l'essai d'Itogé. Pourtant, sur ce match-là, il a plutôt bien défendu à plusieurs reprises. Au début de deuxième mi-temps, des gros plaquages. Donc, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match, hein, Teddy Thomas. Et sur cette action-là, elle fait un peu mal. Voilà. Et je trouve que, in fine, quand tu vois la pénalité fin de première mi-temps un peu généreuse pour les Anglais, plus l'essai sur le genou de Mathieu Jalibert, et puis cette petite... Bah, c'était pas notre jour, quoi. Parce que ces deux trucs-là, ils tournent en notre faveur. T'as 15 points d'avance à la mi-temps, quoi. Et c'est pas la même.
Je pense que aussi, c'est vrai que cette équipe d'Anglais, c'était pas la même il y a quelques semaines aussi, parce que là, ils étaient quand même bien remontés, ouais. Comme ça, je pense que quelqu'un dit merci les Gallois de le mettre dans cet état-là, parce que comme Curry, c'était un match de folie énorme. En fait. Il était vraiment partout, et par rapport à nous, notre troisième ligne, normalement, c'est là où on brille le plus, mais lui, Curry, il était super impressionnant. Je trouvais que Youngs, le 9 aussi, il était super fort aussi, il avait plusieurs percées vraiment formidables.
Il a un de ses moteurs, celui-là.
Ouais. Et je suis, c'est marrant parce que Marchand, je trouve que c'est un joueur discret chez nous, mais dis donc, ce gars, il écrit dans le presse anglaise, il disait « a buffalo » quand ouais, il court avec le ballon.
Il fait une sacrée percée.
C'est
hein.
Cool. Ah oui, grave. Mais oui, je trouvais Johnny May jouer avec tout ce qu'il pouvait. Watson, il est super bon, ce gars. C'est marrant parce que ça fait 50 caps, je pense, pour lui. Je n'ai pas l'impression vraiment de connaître ce monsieur. Mais bon, il est super fort aussi. Bon, on trouvait les Anglais sont un très bon joueur de leur part, mais je pense que pour pas que l'équipe de France avait été sur un mauvais jour non plus. Ce n'était pas juste notre jour.
Au final, on perd que de 3 points. C'est des matchs très serrés. Au niveau international, 3 points, ça tient à rien. Regardez, si Brice Dulin avait mis son drop de 72 000 mètres, on aurait fait match nul. Mais bon, initiative un peu improbable à mon sens. Hein. J'adore Brice Dulin, qui a fait un beau match d'ailleurs, encore une fois, hyper classe. J'ai pas trop compris ce drop.
Oui.
Je crois pas que ce soit sa spécialité. En plus, j'ai trouvé ça un peu bizarre.
Et bon, pour la dernière match, c'était le bataille entre les cousins, c'était l'Écosse contre l'Irlande. Ça démarre vite pour l'Irlande, donc c'est 3-0, et je me souviens que l'eau, il est très bon. Les Irish tentent quelques coups de pied à suivre, le deuxième fonctionne très bien, essaye l'opportunité, 8-0. Réaction immédiate des Scottish, 8-3, penalty tapé par Finn Russell, qui joue souvent avec le sourire, je trouve. Assez égal, mais les Irish semblent être plus exacts, mêlée, touche gagnée, les Verts sont frais et costauds devant, Ted Furlong sort des appuis avec deux crochets intérieurs assez impressionnants. Coup de folie à 27 minutes. Le numéro 15, Hogg, récupère un ballon. Il tape avec son pied et après, il tape avec son visage. Finn Russell aplati. Deuxième essai un peu bizarre dans ce match. 10-8 pour l'Écosse. J'ai l'impression que c'est un match de troisième ligne parce que sur les deux équipes, ils sont très impressionnants. Le vent change un peu pour les Highlanders, mais pas pour longtemps. Grosse poussée dans le mêlée, ça a bien gueulé. Penalité tapé par Sexton, 11-10 pour les Verts. Ça plaque de partout, même l'arbitre français se fait plaquer. Pas de chance pour les autres bleus. Chaque fois qu'ils ont un peu de chance, les Irish le piquent le ballon. 14-10 pour la mi-temps. Attaque des Écossais qui est étoffée par les Irish. Donc logique, c'est les Irish qui marquent le prochain essai. 21-10. À 55 minutes, il y a les remplacements. On voit Hugh Jones de l'Écosse marque un joli essai. 24-17. On n'a que un essai d'écart. Ça prend 4 minutes pour faire les 5 mètres qu'il faut. Et Hamish Watson marque un essai. On est 24-24. Donc ça promet d'être un fin de match peut-être intéressant, mais non, réponse directe de Mr. Sexton, pénalité qui passe 27-24 et ça finit un peu comme ça.
Ouais, c'est un match sympa parce qu'il y a une vraie dramatique sur les 20 dernières minutes, alors qu'on pensait que les Irlandais avaient vraiment fait le plus dur. Ils menaient, comme tu l'as dit, 21-10. Honnêtement, ça roupillait un peu. Ils étaient un peu les mains du guidon. Ils dominaient pas mal. Les Écossais n'étaient pas vraiment dans leur match. Russell, notamment, n'était pas trop là. Et puis, effectivement, cet essai, d'ailleurs magnifique, de la 57e, qui est de la 59e des Écossais, vraiment super bien joué, avec beaucoup de vitesse vers les extérieurs, face à une défense qui était extrêmement compacte au centre du terrain, relance complètement le match. Les Écossais se sont remis à y croire, qui reviennent à 24 partout à 3 minutes de la fin, était vraiment génial et complètement inattendu à un quart d'heure de la fin. Donc c'est ça aussi qu'on aime dans le rugby. Moi, j'ai adoré que ce soit Hamish Watson, notre petit chouchou, qui marque l'essai de l'égalisation, parce que c'est vraiment le tenius, le troisième ligne qui ressemble à rien, mais qui est au milieu du regroupement, qui arrive à s'arracher, qui pousse son bras, il essaie quand même, et tu te dis, ouais, c'est génial. Donc, ouais, tristounet que les Écossais n'aient pas réussi à renverser complètement la tendance, surtout que c'était chez eux à Murrayfield, donc c'est un peu décevant pour eux. Maintenant, sur le match, les Irlandais ont quand même globalement mérité la victoire parce qu'ils l'ont plus dominé que les Irlandais, que les Écossais qui ont joué sur courant alternatif. Et puis je vois le dernier grattage, Henderson, le deuxième ligne, désolé, je parle encore des deuxièmes lignes, mais voilà, grattage qui vaut de l'or vraiment à la fin. Et finalement, on termine là-dessus, une victoire plutôt logique des Irlandais. Il y a de quoi être triste pour les Écossais, mais ouais, quel talent d'être revenu dans le match comme ça et quel plaisir de s'être réveillé pour les 20 dernières minutes, quoi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ça roupillait un peu.
Je trouvais que Watson, il portait beaucoup le ballon. C'était la première fois que je voyais ça et il était un peu partout ce match. Normalement, il est partout, mais là, en plus, avec le ballon en main, et je me disais, est-ce que c'est peut-être dangereux pour eux s'ils l'utilisent partout, parce que peut-être son vrai talent, c'est défense.
Et ils ont leurs grands joueurs qui ont mis du temps à rentrer dans le match. Tu vois, Van der Merwe, on l'a pas vu pendant la première heure et il fait 20 minutes d'enfer à la fin. Mais tu te dis, merde, pourquoi il a pas réussi à être plus tôt dans son match? C'est ça qui est un petit peu, voilà, un peu décevant. Pour les Écossais, je suis surtout déçu qu'ils aient perdu à domicile. Voilà, je pense que bon, il n'y a pas de public, c'est peut-être moins douloureux.
C'est étonnant parce qu'on les aime bien, ces Écossais. On sent que c'est un bon génération. Les Irlandais, franchement, je le connais un peu moins, mais écoute, ils sont bien présents. Ils sont assez rugueux quand même, ces gars-là. Mais ils avaient sorti des vieux, entre guillemets, parce que quand même, il y avait Sexton, il y avait Tad Furlong, le 1, l'autre Healy aussi, qui, c'est quand même, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, ces gars-là.
Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils sont très expérimentés. On voit qu'ils gardent un mental... ouais, de champion, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à aller gagner dans ce tournoi. Maintenant, la semaine prochaine, ils reçoivent les Anglais, si je ne m'abuse. Et donc, ils se sont rassurés avant ce match-là, qui est toujours un match au sommet pour eux. Donc, c'est sympa.
Moi aussi, petite déception pour les Écossais. Après, en soi, sur le match, ces deux équipes, je ne sais pas pour vous, mais de ce qu'on en dit depuis qu'on les suit, depuis qu'on se fait le podcast, ces deux équipes qu'on aime bien... quelle que soit l'issue du match, enfin, j'avais pas de, voilà, les deux me plaisaient, mais c'est vrai que pour les Écossais, je suis un peu déçu de leur ratio par rapport au beau jeu que peut envoyer leur équipe parfois. Je suis un peu déçu pour eux sur le niveau du classement, quoi, pour l'instant du tournoi.
Oui, et puis du coup, dans les résultats, ils peinent un petit peu à confirmer cette embellie qu'ils ont depuis 2-3 ans avec une belle génération et souvent de très beaux matchs. J'aurais trouvé ça sympa pour eux qu'ils enchaînent un peu. Là, c'est un de chute à nouveau.
Complètement.
Puis c'est pas contre la meilleure équipe du tournoi non plus, donc
ouais, qu'ils aient quelques petites victoires à accrocher à leur palmarès, qui redore un peu le blason de leur équipe, qui est assez jolie quand même. Juste, je voulais sortir une petite stat. On va encore reparler deuxième ligne. Je suis désolé, mais il y a Paul O'Connell qui est revenu gérer les touches de cette équipe d'Irlande. Et cette équipe d'Irlande, sur les 8 lancers écossais, en a raflé 6. Ce qui fait quand même un taux de vol, je sais pas comment on appelle ça, du coup un contre
en conquête sur la première heure, ouais, ils ont été énormes.
75% de gains sur lancer adverse, c'est assez énorme.
Et moi, j'ai quand même adoré la percu sur Romain Poit qui dit putain au micro. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, changement de sifflet. Son sifflet est tombé, il y a de la terre dans le sifflet.
Oui, j'ai vu.
Changement de sifflet. Beau. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du rugby international que le mec doit changer son sifflet. C'est absolument énorme.
Il a bien joué, Romain, parce qu'il avait la tête dans le mol et tout, pour voir s'il était essayé et tout, mais on peut pas dire qu'il avait pas bien vu, parce qu'il avait vraiment la tête en bas du tas de 5-6 mecs, quoi. C'était impressionnant.
T'as Romain qui, avec tous ses accents français d'arbitre, il progresse, hein, les gars, il parle quand même anglais, même entre eux, c'est énorme. I can't whistle anymore. Hein,
Allez, semaine prochaine quand même, il nous reste un peu de rugby, donc là on va avoir Écosse contre Italie, après Irlande-Angleterre, donc ça va être un beau match là à voir samedi soir, et pour nous, samedi soir plus tard, donc 21h, ça va être France-Pays de Galles, donc ça va être vraiment c'est le avant-final, parce que quand même il nous reste un match à replanifier, le fameux Écosse-France, mais j'ai pas encore vu de date là-dessus.
Bah, il parlait du 26 mars, on va voir, peut-être le vendredi 26. Ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de se dire que, certes, on a perdu contre les Anglais, et on l'avait déjà dit l'année dernière, tu tapes les Anglais en tournoi, tu l'as gagné, tu perds contre les Anglais en tournoi, tu l'as un peu perdu. Donc, on a un peu les boules, il faut être honnête. Mais on peut quand même encore gagner ce tournoi, et en même temps, empêcher les Gallois de faire le grand chelem. Donc, moi, je pense que ça suffit à la motivation pour faire un gros match la semaine prochaine, qui est le premier en France, au Stade de France, de tout le tournoi, avec un public chauffé à blanc de 2 personnes, bon d'accord, mais c'est quand même une grosse occasion là de se faire respecter au Stade de France, et les Gallois, ça fait un moment qu'ils nous quand même, qui nous marche sur les pieds, sur des matchs importants. Donc j'aimerais bien, même si honnêtement, j'adore cette équipe, et en particulier, vous savez, qui, Allen, Wynn, Jones, n'est-ce pas, 155 sélections, le mec continue de tout arracher sur son passage. Mais là, on a envie de dire non, Allen, non.
Pas cette fois, Alan. Non, non, my watch.
Une tape sur les fesses, un petit chabit et tu rentres à Cardiff.
Alors, en fait, peut-être vous ne vous souvenez pas de la dernière match de l'année dernière, mais en fait, c'est celle où on a vraiment vu Antemek pour la première fois. Il a fait une énorme prestation, notamment le contre pour l'essai de Nagan. Donc, vraiment, c'était un super match l'année dernière. Donc, j'invite nos chers auditeurs de regarder ce match des clips sur YouTube, mais aussi écouter notre épisode de l'année dernière, l'épisode 15. Donc, je pense que la question, c'est to Jalibert ou not to Jalibert?
Absolument. Excellente question.
Juste par contre, en effet, le tout n'est pas perdu et on peut gagner ce tournoi même en ayant perdu contre l'Angleterre, mais c'est quand même au prix de deux bonus offensifs à aller glaner, quoi. Parce que pour l'instant, les Gallois sont à... C'est ça, les Gallois sont à 19 points.
Ah ouais, non, mais...
Et il faudrait que, du coup, qu'on assure les 20 points. Donc, avec deux bonus offensifs, en admettant que les Gallois n'aillent pas chercher un bonus défensif. Et pour l'instant, au goal average, on est perdant. Donc, c'est faisable. Impossible n'est pas français. Mais,
t'as envie de nous péter le moral, là, Charlie, sans déconner.
Non. Tu sais, la réalité en ce moment est dure et il faut la rappeler. Merde. On est dans une époque de...
pour continuer avec d'autres bonnes nouvelles, c'est que je pense que la Heineken Cup est de retour. Donc, en fait, d'un coup, on n'avait pas de rugby pendant un an et maintenant, on a rugby qui sort de partout, en fait.
On s'habitue presque à ce rugby sans public. C'est incroyable.
Et ouais, pas d'accalmie parce que on a le tournoi et puis, en effet, la Coupe d'Europe qui revient dans nos semaines. On aura tout le temps d'en reparler à ce moment-là.
Allez, dans d'autres rugby news, apparemment, le Coupe du Monde 2021, la Coupe féminine, il est annulé.
Et oui, effectivement, malheureusement, la Coupe du Monde qui devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande a été reportée à 2022 en attente de nouvelles dates. Donc, ce qui est assez triste parce que c'était vraiment une échéance que les Bleus préparaient depuis de longues dates. Elles ont déjà le tournoi destination qui a été reporté toujours pour cette même raison. Donc, malheureusement, elles subissent aussi un petit peu plus que les hommes tout ce contexte sanitaire. Mais bon, on se réjouit au moins de voir du rugby féminin à partir du week-end du 3-4 avril, qui est le week-end de Pâques d'ailleurs, pour avoir quasi un flux continu entre le tournoi de destination masculin et le féminin. Donc début des matchs le 3-4 avril et jusqu'au 24 avril avec un peu un nouveau format que vous découvrirez. C'est un tournoi un peu plus rétréci, un petit peu inspiré de l'Autumn Nations Cup pour permettre aux féminines de jouer ce tournoi.
Bah chouette, et peut-être la semaine prochaine on peut prendre un peu plus de temps pour se remettre un peu dans le bain à ce niveau-là.
Yes.
Par contre, de bonnes nouvelles, si j'ai bien compris, les JO, ils vont avoir lieu.
Oui, a priori, Tokyo 2020 est confirmé, en tout cas pour les athlètes. Les supporters ne pourront pas s'y rendre, en tout cas les supporters étrangers, mais voilà. On pourra regarder beaucoup de sport à la télé cet été. Et ça, c'est plutôt kiffant.
Les canapés vont chauffer.
On pourra voir Semira Dradra et ses cannes de feu dans l'équipe du 7 fidjien tenant du titre olympique, yes. Je vous le rappelle.
En espérant dans un pub. Et les gars, est-ce que je peux prendre un autre petit moment américain?
Bah, évidemment. Ah, tu es chez toi.
Tu as commencé à dépasser le quota, attention. Parce que...
Écoute, je voulais vous tenir au courant quand même. Il y a un truc aux États-Unis qui se passe en ce moment et ça s'appelle The March Madness. Est-ce que vous connaissez ce que c'est?
Pas du tout.
En fait, il y a un tournoi, c'est un tournoi de basket et c'est tous les universités qui jouent un tournoi national pour devenir le meilleur équipe universitaire. Donc, comment ça fonctionne en fait? Ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de tournois qui s'est fait partout aux États-Unis. Et les 68 meilleures équipes vont faire un espèce de bracket, donc ça veut dire qu'ils vont jouer tous les uns contre les autres. Et finalement, pour there is only one. Et en fait, c'est super sympa à faire. Donc je vous invite, mes chers écouteurs, de taper March Madness et taper un bracket. En fait, c'est un bracket, ça lui dit quelles sont les équipes qui se jouent. Et en fait, par exemple, si tu choisis toutes les bonnes équipes, parce que c'est impossible à faire, c'est comme gagner au loto, en fait, c'est juste impossible de bien choisir qui va gagner tous les matchs. Et franchement, c'est vraiment sympa. Et après, ça va vous faire peut-être un peu de géographie américaine aussi.
Peut-être aussi, puisqu'on parle de sport universitaire aux US, que bientôt, c'est le Walk-On Day. Et Thierry, est-ce que tu te rappelles de ce fantastique truc que nous avait raconté Richard Tarditz, où tous les mecs qui n'ont pas de bourse ont une chance de venir choper la dernière bourse disponible. Et sur les 100 mecs, le Woken Dev a été gagné par notre copain Richard Tarditz. Je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait là-dessus parce que c'est vraiment un voyage dans l'Amérique des années 80 et Richard ouais, au volant. Superbe. N'hésitez pas à vous faire plaisir.
Allez, je sens tous ces bonnes mots, je pense que c'est l'heure de dire au revoir, les gars.
Ouais, ça va être l'heure de dire au revoir, on a hâte de se retrouver la semaine prochaine. Après, j'espère un petit débriefing qu'on aura à faire sur le fait qu'on ait marché sur des Gallois, ça nous ferait plaisir.
Ça me paraît un bon programme, je absolument.
Que... Ouais, c'est un bon plan.
Donc rendez-vous très vite puisqu'on enchaîne les matchs, on a hâte de retrouver nos bleus contre nos rouges. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à nous alimenter de vos précieux commentaires. C'est un peu comme notre salaire, donc... Votre sourire, c'est notre salaire.
Oh, c'est magnifique.
Waouh, c'est beau.
Allez les gars, ciao.
Salut à tous.
Ciao, bye la team.
Salut.